Le fentanyl. Ouais, j'ai vu beaucoup de reportages aux États-Unis surtout. C'est le vrai risque, c'est que ça vienne en Europe. C'est 10 fois moins cher que toutes les autres drogues. Faut pas que ça arrive ici alors.
Et à tous, quelle joie de vous retrouver pour le premier épisode de Zoom Zoom Zen millésime 2026. Heureuse année à tous. Je ne sais pas comment s'est passée votre soirée du 31, mais la nôtre était exceptionnelle. Comme c'est désormais la tradition dans Zoom Zoom, on a réveillonné à Ivry-sur-Seine, chez notre réalisateur décroissant Ghislain Fontana, chez qui à minuit on ne s'embrasse pas sous le gui, mais sous les feuilles de cannabis qui fait pousser sous une grosse lampe halogène dans sa joyeuse tiny house, où un groupe d'amis péruviens rencontrés dans une amab du coin était venu nous interpréter Feliz Navidad et autres chants de fête entraînants et joyeux qui ont réchauffé les cœurs de tous les membres de l'équipe, sauf évidemment celui de Manon qui n'a pas de cœur et qui a juste regardé les Péruviens en soupirant.
Mais quel enfer!
Craignant à raison que la cave de Fontana ne soit constituée que d'affreux pétnates et autres vins nature sentant l'anus de chèvre, Cyril Lacarrière avait pris les devants en apportant sa propre bouteille de Bourgogne, comme Marius dans Les Bronzés font du ski. Quand il a vu que Quentin avait apporté pour la 17e fois d'affilée un Pinot de Nice, il s'est dit qu'il avait décidément bien fait d'anticiper sur le mauvais goût de ses collègues, ces bobos dégénérés dont le palais a été saccagé par le matcha, écrivait-il dans la boucle WhatsApp Les Copains d'Europe 1, recueillant un cœur de la part de Charles Villeneuve. Bref, avant même qu'on passe à table, Cyril s'était sifflé toute sa bouteille en solo et entonnait Last Christmas avec le flûtio andin de Camille Lorente. Voilà. Heureusement que Cyril était bourré, sobre, il n'aurait jamais pu encaisser ce que la suite de la soirée lui réservait, à savoir un buffet végétarien. Un 31 décembre, ces gens-là ne respectent décidément rien, pestait Cyril dans sa barbe pendant que les Péruviens entamaient la reprise des plus grands tubes des Gypsy Kings. Par chance, il lui restait justement dans sa barbe quelques reliques du réveillon de Noël. Justement, un beau médaillon de foie gras quasi intact. C'est bon, il pourrait tenir jusqu'à minuit. Ce qui, hélas, ne fut pas le cas de Manon, qu'on retrouvera évanoui dans les toilettes sèches de Fontana, le nez dans la sciure. Son tort, oui, c'est visuel. Son tort, avoir goûté à la nouvelle drogue élaborée par Ghislain, dérivé du fentanyl, mais 100% bio, le fontanyl. Le premier opioïde en circuit court, coupé à l'ayahuasca et rehaussé au clou de girofle. La pauvrine n'a pas supporté, pas étonnant. Elle qui ne prend jamais de drogue, aurait ricané Quentin, le pire d'entre nous, pendant que les pompiers l'évacuaient vers l'hôpital Lariboisière, dont nous allons reparler dans cette émission, car c'est là que Manon a rencontré notre invité. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Bruno Mégarvan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Zoom
Zoom. Merci de m'avoir invité.
Vous êtes médecin spécialisé en toxicologie, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Très bon hôpital où on est très bien pris en charge, je tiens à le dire. C'était là que je suis allé l'autre jour après mon petit accident.
C'est pas l'hôpital américain.
Étonnant.
Ça change.
Arrêtez de dire n'importe quoi. Les Français ont droit d'entendre la vérité.
C'est gratuit.
Vous êtes aussi professeur à l'université Paris Cité et vous allez tout nous expliquer sur cette drogue et le fléau qui est devenu le fentanyl. Nous dire aussi si la France est à l'abri ou pas. Juste le temps de vous présenter deux journalistes auxquels les Français sont de plus en plus addicts.
Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que des gens te reconnaissent dans la rue ou pas?
Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour. Les gens ne peuvent plus se passer de vous. C'est les retours que j'ai.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Ce qui est fou, c'est qu'au moment de ce vocal, vraiment, personne ne nous connaissait.
Oui, c'est marrant, c'est un vieux vocal à l'époque où vraiment, je ne sais pas qui vous arrêtait dans la rue, mais à part des gens de votre famille, probablement.
Oui,
Manon, chaque après-midi, vous nous envoyez une pièce jointe concernant notre sujet du jour.
Et aujourd'hui, ce sera une série, une mini-série. Elle parle des débuts du fentanyl aux États-Unis et comment la crise des opioïdes a été lancée par des groupes, un groupe en particulier, pharmaceutique.
Et vous, est-ce que vous avez entendu parler du fentanyl? Avez-vous déjà pris du fentanyl? Oui. Quentin est allé vous poser la question frontalement.
Pas de chichi, on y va tout de go, pour reprendre l'expression moderne qu'emploie Mathieu Noël lorsqu'on fait la conférence de rédaction hebdomadaire à laquelle il participe évidemment.
Beaucoup de mensonges dans cette phrase.
Alors que pense la rue du fentanyl, si on le dit comme ça, ou fentanyl, qu'importe? Est-ce qu'ils imaginent que ça puisse faire pareil en France? La frontière entre ordonnance et dose est-elle si fine? Vos réponses complètement à la rue, c'est dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, quitte à découvrir une nouvelle drogue, pourquoi ne pas aller au bout du concept en découvrant le lexicrieur du narcotrafic? Comment s'appelle celui qui transporte les feuilles de coca jusqu'au labo? Comment s'appelle celui qui transforme la coca en cocaïne? Vous le saurez en écoutant le Zoom Zoom Test spécial Dictionnaire amoureux de la schnouf. Juste avant 17h, nous retrouverons la maman la plus débordée de France, Marine Léonard, mardi après 17h aujourd'hui. Restez avec nous à l'occasion de l'ouverture du CES de Las Vegas demain. On sera avec Roxane Marza qui dirige Station F à Paris, l'incubateur de start-up de la tech. Elle nous dira ce que nous réserve 2026 en termes d'innovation. Mais d'abord, donc Bruno Megarban, on commence avec vous par zoomer sur ce produit qui affole l'Amérique depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que le fentanyl, c'est vraiment la drogue de ce début du 21e siècle ?
Non, je ne crois pas du tout. En fait, le fentanyl est à l'origine un produit pharmaceutique, un médicament, qui a été détourné de son usage parce qu'aux États-Unis, une population dépendante des opioïdes avait été créée par les prescriptions médicales exagérées.
C'est OxyContin, tout ça ?
Voilà, essentiellement par, peut-être vous allez le raconter, en raison de prescriptions excessives d'oxycodone. Et donc, ceci a fait le terrain de la prolifération des personnes dépendantes du fentanyl. Je ne crois pas que ceci soit possible ailleurs dans le monde, ou en tout cas pas en France ou en Europe. À mon avis, les drogues du 21e siècle seraient plutôt des drogues stimulantes. Mm-hmm. Les catinones, les cannabinoïdes de synthèse. En tout cas, ce sont des drogues de synthèse avec des effets sur mesure pour le consommateur. D'ailleurs, aujourd'hui, aux États-Unis, la quatrième vague, si vous en parlez, de cette crise du fentanyl, est une vague de combinaison des produits stimulants avec le fentanyl. Mais c'est d'abord une crise des produits stimulants.
Pour introduire le sujet, je vous propose d'accueillir à présent, plus qu'un journaliste, la star du Mercato Média de Noël. Oui, les mélomanes l'auront reconnu, seule la musique du film Le Retour du Roi, dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, est à la hauteur du Tour de Force, réalisé durant les vacances par Cyril Lacarrière, qui à force de pavaner, la cuisse nonchalamment recourbée en posture virile devant le bureau d'Adèle Van Rett, a fini par obtenir le retour de son édito média dans la matinale de France Inter, et tant pis si pour cela il a fallu déloger Dominique Seux, l'homme est un loup pour l'homme, et dans le cas de Cyril on pourrait même parler de Vélociraptor. En tout cas, bravo Cyril, 2026 est donc l'année de la reconquête, comme dirait l'autre.
Oh non !
Bonjour Mathieu, bonne année !
Vous m'avez l'air déjà épuisé. C'est comme si vous aviez déjà fait 10 semaines de matinale. Vous allez tenir le coup, Cyril ?
On va voir.
Rassurez-vous.
On va essayer de se préserver.
Cyril,
on est content pour vous, Cyril.
Ah oui. Ah, on est heureux. On est heureux.
Ça me touche, merci.
Ça va nous faire un sacré feuilleton. Heureux. Oui.
Tu savais que quand j'ai posté cette sto sur Instagram, de nombreuses réponses de nos éditeurs me disaient qu'ils attendaient avec impatience ce que vous alliez en raconter.
Oui, bon, c'est pas fini, c'est que le début. Cyril, heureusement, ce nouveau défi excitant ne saurait vous détourner de votre autre sacro-sainte mission, le d'où ça sort. Je vous pose donc la question, le fentanyl, d'où ça sort ?
Imaginez une poudre blanche, minuscule et invisible sur le bout d'un doigt, et non, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Ce produit est si puissant qu'il suffit de quelques milligrammes pour provoquer une overdose. C'est une drogue qui n'existait pas dans la rue il y a 30 ans, mais qui aujourd'hui tue plus d'Américains que les accidents de voiture, les armes à feu et l'alcool, tout ça réuni. Cette substance, c'est le fentanyl, elle est devenue en une décennie le symbole d'une crise mondiale. À l'origine pourtant, c'est une invention médicale. On la doit à un chimiste belge, Paul Janssen. C'est en 1960 qu'il crée le fentanyl en cherchant des analgésiques plus efficaces pour les opérations lourdes. Et ça va l'être. Le fentanyl, c'est un opioïde 50 fois plus puissant que l'héroïne et extrêmement utile pour l'anesthésie. Logiquement, le produit va longtemps rester confiné au bloc opératoire et à quelques traitements contre la douleur extrême très encadrés.
Et quand est-ce que ça va changer ?
Eh bien, dans les années 90, quand surgit la crise des opioïdes aux États-Unis, on a commencé à l'évoquer, les prescriptions massives d'antalgiques comme l'oxycontin crée des millions de personnes dépendantes. Et quand les autorités sanitaires resserrent les contrôles, 20 ans plus tard, les usagers accros se tournent vers des alternatives plus fortes et surtout beaucoup moins chères. C'est là que le fentanyl fait son apparition, grâce à des fabrications clandestines notamment, et donc sujette à des mélanges dangereux. On va aussi en parler. Résultat, à partir de 2015, le fentanyl inonde le marché américain. Et c'est comme ça que commence notre histoire.
Merci beaucoup Cyril. Docteur Megarban, ce qui est intéressant dans cette histoire de la crise des opioïdes et du fentanyl aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour une fois, là, le responsable, c'est plutôt le corps médical, certains médecins qui ont trop prescrit, et l'industrie pharmaceutique elle-même aux États-Unis qui est responsable de cette catastrophe.
Alors, j'allais dire oui. Effectivement, il y a eu une conjonction d'abord d'un corps médical qui a prescrit facilement le produit parce qu'il a mal appris à l'université. On lui a appris que la prescription d'un opioïde au long cours n'entraîne pas de dépendance. Tout ceci basé sur un travail scientifique publié dans une grande revue américaine de médecine, le New England Journal of Medicine, qui était malheureusement erroné et qui a été enseigné et repris dans de multiples publications et donc formé au fait que la prescription d'analgésiques opioïdes était anodine, un laboratoire pharmaceutique, Purdue Pharma, en a profité pour faire une publicité extrêmement pressante sur le corps médical pour son produit phare, l'oxycodone, et les médecins se sont mis à prescrire, recevant probablement des pots de vin, et les pharmaciens à délivrer probablement de la même façon. Et ainsi, évidemment, le produit s'est répandu dans la communauté et tout un groupe de personnes, initialement des personnes plutôt de la cinquantaine, avec des problèmes de douleur, de rhumatisme, sont devenus dépendants. Et donc ça, c'est la première phase de la crise des opioïdes. Et
juste pour finir d'un mot, parce que si elle le disait, le chiffre m'a choqué, un opioïde 50 fois plus puissant que l'héroïne, quand on voit ce que c'est que l'héroïne, enfin, comment ça peut être 50 fois plus puissant, ça veut dire
quoi ? Alors, je dirais même un peu plus, c'est même 100 à 200 fois plus puissant que la morphine. C'est rien en fait, les fentanyl, certains dérivés du fentanyl, par exemple le carfentanyl est 10 000 fois plus puissant que la morphine.
Et ça veut dire que j'allais dire, on nous coupe une jambe, on ne sent pas qu'on nous coupe
une jambe. C'est tellement puissant qu'on ne peut pas s'en servir en médecine humaine.
Ah,
il n'est utilisé qu'en médecine vétérinaire pour l'analgésie des hippopotames et des rhinocéros. Vous pouvez le trouver sans aucun problème dans la rue, sous forme récréative. Il faut juste savoir que le fentanyl et ses dérivés sont actifs de l'ordre du microgramme, pas du milligramme, du microgramme, c'est-à-dire mille fois moins.
Oh mon Dieu.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Comment mieux fêter la nouvelle année qu'en zoomant sur la drogue qui sème le chaos aux États-Unis ? Son nom, le fentanyl. Le médecin spécialisé en toxicologie et chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris, Bruno Mégarban, est avec nous pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce fléau qu'est le fentanyl. Alors déjà, pourquoi le fentanyl est aussi addictif ? On a dit que c'était beaucoup plus puissant, par exemple, que la morphine, mais il y a un côté addictif ?
Alors, il n'est pas plus addictif qu'un autre opioïde. Il est tout autant addictif que la morphine, l'héroïne. En fait, l'addiction aux opioïdes est la même. Par contre, les dangers de l'opioïde utilisé sont différents.
Et pourquoi les dangers sont supérieurs dans le cas du fentanyl ?
Parce qu'en fait, il peut donner beaucoup plus facilement une dépression neuro-respiratoire. Cette dépression neuro-respiratoire a deux mécanismes. Contrairement à la morphine, elle a un mécanisme central qui est commun à l'ensemble des opioïdes, c'est-à-dire par ralentissement de la fonction des centres, de la commande de la ventilation respiratoire, mais également une complication un peu typique des fentanyls et de ses dérivés, c'est une contracture des muscles inspiratoires, notamment du diaphragme, c'est ce qu'on appelle un thorax en bois, c'est-à-dire la personne, très peu après l'exposition au fentanyl, va avoir une hypertonie de ses muscles et donc l'impossibilité de respirer et donc le décès.
Ah oui, c'est ça le mérite d'être clair.
Comment ça se prend le fentanyl
Toutes les voies sont possibles.
Toutes les voies sont
Donc sniff, injection, inhalation, tout est possible.
Mais quand c'est prescrit par un médecin, quand ça a été prescrit, je suppose que c'est par cachet.
Alors en fait, le fentanyl, c'est essentiellement utilisé à l'hôpital, au bloc opératoire, en réanimation. Il existe des formulations, on va dire, ambulatoires, mais évidemment, elles sont extrêmement régulées en termes de prescription, à des posologies beaucoup plus faibles. Elles sont essentiellement par voie percutanée.
Mais donc, j'imagine que le problème de la dépendance, on comprend facilement, mais il doit y avoir un autre problème, tout simplement, de mortalité par overdose avec ça. Si une dose infime de fentanyl peut, chez certains, provoquer...
C'est ça le problème, justement. C'est ce qu'on appelle la crise des overdoses mortelles aux États-Unis, donc qui sévit depuis 25 ans. Les 10 premières années étaient liées à l'oxycodone. Depuis, c'est essentiellement lié au fentanyl. En tout, cette crise a entraîné le décès d'un million d'Américains.
Ça coûte combien d'en consommer ? Parce que vous avez parlé du nombre de doses que ça peut être en plus que de la morphine, par exemple. Mais ça coûte combien de prendre du fentanyl ?
Alors, je veux dire, le coût unitaire aux États-Unis, je ne le connais pas. Mais il faut savoir que le fentanyl arrive aux États-Unis à partir du Mexique. Donc, les matières premières sont importé de Chine. Le produit est fabriqué dans des laboratoires clandestins au Mexique, et puis il pénètre par la frontière sud des États-Unis et inonde le marché.
Mais c'est moins cher que d'autres drogues peut-être.
C'est moins cher que l'héroïne, ça c'est certain. Maintenant, c'est probablement un peu moins cher que l'oxycodone, mais j'allais dire, ce type d'opioïde est un peu dans le même gamme de prix. Par contre, c'est clairement moins cher que l'héroïne, car l'héroïne vient de la morphine qui est extraite du pavot d'opium, et donc il ne faut l'amener d'Afghanistan. Donc c'est beaucoup plus coûteux.
Mais comment on s'en procure ? Concrètement, quand alors, on est, je sais pas, je pense aux millions d'addicts du coup.
Alors, au début, c'était donc une crise des opioïdes de prescription, puis rapidement, c'est devenu une crise des opioïdes de rue. Donc, il y a des dealers, comme en France,
oui,
on a des dealers
de la cocaïne,
cannabis et de cocaïne. On peut acheter le fentanyl dans la rue aux États-Unis à partir de dealers qui achètent eux-mêmes le fentanyl à partir de gangs et de mafias mexicaines.
Et d'un mot, pourquoi vous dites que c'est pas possible que ça arrive en France, selon vous ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas cette population qui a été rendue dépendante aux opioïdes avant l'arrivée du produit. Deuxièmement, les frontières de la France et les pays adjacents font qu'il est très peu probable qu'il puisse y avoir une base arrière de laboratoires qui synthétisent du fentanyl et qui inondent le marché. Enfin, surtout, les autorités sanitaires en France sont beaucoup plus réactives et donc, évidemment, au moindre doute quant à des prescriptions excessives, quant à un mésusage d'un produit, il y aurait des alertes et des décisions prises qui ont tardé aux États-Unis.
Lundi de la rentrée, 0 degré, ressenti moins 5, des conditions idéales pour un micro-trottoir. Car quoi de plus agréable que de papoter avec Quentin, lui, sur le sujet rire du fentanyl en risquant l'hypothermie. Quentin, ça n'a pas dû être facile ce matin dans la rue.
Disons que je redécouvre le froid.
Oui.
Voilà, je pensais avoir froid en décembre, mais je me suis trompé. Je marche non loin de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris. Ici, à l'angle de la rue de Lyon et du boulevard Diderot, j'entends qu'on commande une formule petit déjeuner viennoiserie jus d'orange. J'arrête ce jeune homme, valise au bout des bras, qui vient de commander son VTC.
Bonjour. Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Corentin.
Corentin, vous êtes la première personne que j'arrête en 2026.
C'est vrai.
Bonne année.
La chance.
Bonne année à vous aussi.
Est-ce que vous partez de vos pieds ?
Je pense, mais bon, ça a été un peu compliqué de s'y remettre. Déjà, le 1er janvier était costaud, quoi.
Ouais, costaud, comme celui de Manon Mariani,
évidemment,
certainement. On embrasse. Est-ce qu'il connaît le mot du jour de Zoom Zoom Zen ?
Oui, ça je connais, ouais. Le fentanyl. Ouais, j'ai vu beaucoup de reportages aux États-Unis surtout. Drogue de synthèse, pas chère. Fabriquée par les Chinois. C'est le vrai risque, c'est que ça vienne en Europe. C'est 10 fois moins cher que toutes les autres drogues. Faut pas que ça arrive ici alors. Parce que quand on voit les villes zombies, moi j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis et dans chaque ville tu vois des jeunes comme nous qui sont à la rue et tu les vois drogués, mais pas drogués comme quelqu'un de pauvre en France. Là ça fait vraiment peur. C'est zombies et à toute heure, c'est juste triste quoi.
Avant de me quitter, Corentin partage avec moi ce constat d'impuissance.
C'est inarrêtable. Comment on peut contrôler ça en fait ? Ça va dans tous les sens. C'est incontrôlable. Et même je voyais un reportage la dernière fois sur Canal. On te montre Circus, je sais pas si tu connais. C'est un reportage où on montre qu'aussi les politiques sont responsables aussi de ça. Par des saisies records, on va te faire croire qu'ils ont chopé 2 tonnes de cocaïne, je sais pas où. Et au final, ils avaient juste un informateur et ils ont travaillé avec cet informateur-là. Et au final, ils sont complices de ça aussi. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu hypocrite des fois.
J'arrête cette jeune femme qui marche, les mains bien cachées dans les poches de son manteau.
Le fentanyl.
Est-ce que vous savez de quoi on parle ?
Ouais, c'était qui a tué beaucoup de gens, qui a rendu
48 000 overdoses en 2024.
C'est le film qu'a fait Nan Goldin contre cette drogue-là.
Elle fait référence au documentaire « Toute la beauté et le sang versé » sorti en 2022 qui retrace la vie de la photographe Nan Goldin. Elle parle de son activisme contre la crise des opioïdes. Après sa propre addiction à l'oxycontine, elle fonde le groupe PAIN, Prescription Addiction Intervention Now, pour dénoncer le rôle de la famille Sackler et de leur société Purdue Pharma, responsable selon elle de milliers de morts par overdose. Sur ma route, je croise maintenant cette bande de copains qui se moquent de moi. Je suis quand même là en bonnet, en écharpe et en gants à arrêter les gens avec un micro et pour leur faire lire un mot. Ils visitent Paris, mais d'où viennent-ils ?
Près de Washington, D.C. C'est quoi le mot que tu voulais ?
Ça.
Fentanyl.
Why ? Ben, je leur explique à ces étudiants de Washington qu'on fait une émission sur ces chiffres alarmants. On parle, de même vous le disiez, près de 90 000 overdoses en 2024 aux États-Unis.
Il y a des villes où le phénomène est bien plus visible que dans d'autres. À Los Angeles, par exemple, c'est très marqué. À New York, certains quartiers vont très bien, mais ailleurs, ça saute aux yeux. Je dirais que Washington est aussi concerné et Philadelphie particulièrement touchée. Je pense que c'est un énorme problème, mais je dirais qu'en Amérique, ils font plutôt bien les choses. En gros, chaque année au lycée, on regarde des vidéos et on suit des cours pour expliquer à quel point le fentanyl peut être dangereux. Et je pense qu'ils doivent continuer à le faire.
Nous parlons de la frontière fine qui existe entre médicaments et drogues, entre prescription et dose. Est-ce qu'il y a une différence culturelle, par exemple, entre les États-Unis et la France ?
Je pense que surtout aux États-Unis, les médecins ont tendance à prescrire beaucoup plus facilement. Il suffit parfois de dire qu'on a un peu mal pour qu'ils passent immédiatement à des traitements très forts, censés vous soulager tout de suite. En Europe, j'ai l'impression que c'est différent. Il faut prouver davantage, justifier plus longtemps, passer par plus d'étapes, quitte à supporter la douleur. Aux États-Unis, les opioïdes sont souvent prescrits presque immédiatement.
Josh, son ami, l'écoute et puis conclut.
Et j'ajouterai, dans la continuité de ce qui a été dit sur la surprescription des opiacés, que certaines entreprises en ont énormément profité. Il existe de fortes incitations, surtout dans un système de santé très privatisé, pour que les médecins prescrivent des opiacés. Parce que, bien souvent, les patients deviennent dépendants, ils reviennent en demander, et le système continue ainsi. Il y a d'ailleurs une famille qui a été accusée d'avoir fait fortune grâce aux opiacés, une affaire très importante dont vous avez probablement entendu parler aux États-Unis.
Dans les rues américaines, certains voient passer des zombies. À Washington, ces jeunes parlent de marché, d'un système bien rodé. Donald Trump, lui, parle d'une arme de destruction massive, allant jusqu'à comparer le fentanyl à une bombe. Le problème, c'est qu'une bombe ne tombe jamais toute seule. Quelqu'un l'a conçue, quelqu'un l'a déclenchée et quelqu'un en tire encore profit.
Merci, mon cher Quentin. Bruno Mégarval, en tant que médecin, quand vous entendez effectivement aux États-Unis que des médecins peuvent prescrire en première intention des opioïdes, ça vous choque ?
Alors, tout médecin peut prescrire en première intention des opioïdes, y compris
est-ce
en
que
France.
C'est, est-ce que c'est, est-ce
on
que
va
c'est
dire, vraiment... lorsque vous avez affaire à une douleur extrêmement importante, une douleur cancéreuse, une douleur chirurgicale, post-opératoire, il est tout à fait logique de prescrire un dérivé morphinique et peut-être du fentanyl, bien sûr, avec une surveillance adéquate. Ce qui était anormal aux États-Unis, c'est des prescriptions d'opioïdes sans contrôle, en grande quantité, peut-être pour des douleurs qu'ils ne le méritaient pas. Mais à nouveau, aujourd'hui, ça n'est plus du tout un problème de prescription médicale.
Oui, c'est fini.
Aux États-Unis. C'est fini. En fait,
ça,
tout ça, c'est avant 2010.
Là, on est sur une drogue de rhume.
Aujourd'hui, les contrôles des prescriptions d'opioïdes aux États-Unis sont similaires à ce qu'on voit en Europe. Les autorités sanitaires ont pris conscience du problème, les médecins aussi. Par contre, c'est les fentanyls de rue qui sont aujourd'hui responsables de la crise aux opioïdes.
Même l'éducation s'en est emparée. Ces étudiants parlent de vidéos de prévention qu'ils voient dès le lycée. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça s'adresse aux bonnes personnes ? Là, on parle quand même de 4 étudiants blancs, visiblement de bonnes familles, qui voyagent en Europe.
Oui, on va dire, pour contrôler l'addiction et pour essayer de réduire, on va dire, le mésusage de certains médicaments ou l'usage de drogues illicites, il y a bien sûr le volet répressif, mais il y a aussi, et c'est beaucoup plus important, et on le voit en France, ouais, le volet de prévention, d'éducation et d'information du public et notamment des consommateurs potentiels. On voit législation contre le cannabis en France est l'une des plus répressives en Europe et pourtant la France est le premier pays consommateur de cannabis. Donc on voit bien qu'il y a un volet qui manque. Et aux États-Unis, il est tout à fait important de former, d'expliquer et de prévenir l'utilisation des opioïdes qui existent sur le marché.
Mais ces étudiants américains le disaient, pourquoi il y a des villes qui sont plus touchées que d'autres ? Ils parlaient notamment de Philadelphie ou de Los Angeles par exemple.
Alors, on va dire là, on touche à une problématique un peu plus complexe. Oui. À la fois, on va dire, il y a les filières. C'est comme en France, pourquoi Marseille est plus atteinte qu'une ville en Bretagne, par exemple. Il y a des filières de mafia et de trafic. Et il y a aussi la démographie et le niveau socio-éducatif de la population. Oui. En fait, plus on a une population pauvre, pas éduquée, mal formée et abandonnée, et malheureusement, plus le problème de drogue est important.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur la drogue qui terrorise l'Amérique, le fentanyl, je vous propose à présent un quiz sur la drogue préférée des Français, la cocaïne. qui vient de détrôner, rappelons-le, le cannabis au grand dam de Manon, qui n'a jamais consommé de drogue, mais celle-là, oui, parce que c'est pas vraiment de la drogue. Bref, je vous propose aujourd'hui de jouer avec les mots. Les mots du trafic de drogue, histoire de voir qui dans l'équipe est vraiment concerné par ce fléau. Jouons au Zoom Zoom Test, un quiz que nous dédions évidemment aujourd'hui à celui à qui je donne 15 jours pour sombrer corps et âme dans le fentanyl, seule drogue capable de l'aider à surmonter son nouveau rythme de travail, notre rédacteur en chef, re-éditorialiste média de la matinale, Cyril Crazy La Carrière. Cyril qui, ayant à superviser une quotidienne de 2 heures, ne voyait déjà plus beaucoup ses enfants, mais qui en 2026 a prévu de ne plus les voir du tout. Puisqu'il s'est ajouté, effectivement, mais c'est ce qu'il attend, ajouté une troisième chronique quotidienne à l'heure où jadis il préparait le petit déjeuner de ses enfants, 7h20, ce qui implique, imaginez Manon, un réveil à 5h30.
J'ai envie de crever sous un camion.
Oui, alors ça Manon, j'ai testé pour vous avec un scooter, je vous le déconseille, mais le fait est que...
De pas aller au bout.
Seul de...
Pardon.
Ça va pas.
Très méchant.
Moins 5 au quiz.
Très méchant. Vous pensiez reprendre les rênes de l'émission?
Non, pas du tout. Ah non, c'était pas moi.
Très bien. Le fait est que seules de grandes quantités de drogue pourront sauver Cyril du burn-out. Voilà pourquoi je vous propose cet après-midi un voyage rieur dans le champ lexical du trafic de stup. Et on commence évidemment dans ce pays dont le président doit bien flipper en ce moment car il a beaucoup de points communs avec le Venezuela, à commencer par ses musiques folkloriques, la Colombie. Un pays que Cyril connaît bien puisqu'au début des années 2000, quand il était encore à la CIA, il y a effectué une mission extrêmement périlleuse.
C'est pas le FBI.
Localiser, non la CIA pour l'international, localiser un laboratoire clandestin de cocaïne. En pleine jungle, il le savait, la qualité de son camouflage ferait la différence. Et il avait raison, son déguisement buisson était tellement réussi que les animaux de la jungle venaient régulièrement déféquer sur lui. Une attente qui sera récompensée et permettra d'arrêter le chimiste en chef du cartel de Medellín, un chimiste qu'on appelle habituellement comment ? Le cochinero, le cuisinier. Le salchero, le saucier. Ou le pastelero, le pâtissier. Tout ça avec un accent au cordeau.
Mais j'irais A.
C'est, moi je dirais C.
Le pâtissier. Ouais. En hommage à Nina Mété, notre invité de demain, Quentin.
Mais dis donc,
effectivement.
Vous êtes au courant ?
Ah mais bon, je bosse deux fois plus, mais Cyril est complètement à l'ouest, c'est moi qui m'occupe de tout dans cette émission. C'est ta réponse A, bonne réponse de Manon, El Cochinero, le cuisinier, un rôle clé dans la filière de production, puisque c'est lui qui transforme la pâte de coca en chlorhydrate. Fun fact pour vous Manon, sachez que l'ustensile indispensable dans ce processus, c'est le air fryer.
Ah bon ?
Mais non, pas du tout. Un point en moins, Manon, pour être tombé dans le panneau.
Mon point, alors.
Lors de cette mission, Cyril avait bien réussi à identifier le cochinero. Hélas, au lieu de l'arrêter, il avait sympathisé avec lui, car je le cite, c'était un vrai cuisinier qui connaissait plein de recettes colombiennes typiques hyper savoureuses. On est resté en contact, il m'en envoie encore souvent via Facebook. Cyril a donc été viré de la CIA et le trafic a pu prospérer. Remontons ensemble cette filière. Quittons la Colombie pour le point d'arrivée de la drogue en Europe, les ports hollandais d'Anvers et de Rotterdam. Car oui, avant d'arriver au délicat narines de Marie-Monique Robin et tous les autres consommateurs friands de poudreuse, la cocaïne doit d'abord être extractée des cargos qui la transportent. Justement, les extracteurs, c'est comme ça qu'on surnomme ceux qui sont chargés de cette mission. Alors, c'est quoi leur mission ? D'aborder les cargos juste avant l'arrivée au port pour récupérer la cargaison en amont ? Est-ce qu'ils sont chargés de piloter des hélicoptères ou des drones pour élitreuiller les ballots de drogue depuis les docks ? Ou est-ce qu'ils sont chargés carrément d'escalader les piles de conteneurs à main nue sur les quais pour récupérer la cam ?
C'est...
Je crois que je suis devant.
C'est Quentin qui est devant Manon, c'est dommage. Vous avez bien démarré, tout s'effondre. Bon point de Quentin, on comprend enfin pourquoi Ghislain Fontana pratique l'escalade.
Que je vais peut-être perdre parce que le port d'Anvers, c'est pas en Hollande. Ni Hollande d'ailleurs.
Tout à fait, c'est une erreur, effectivement. C'est une erreur. Anvers, la Venise du Nord.
Oui, exactement,
effectivement, c'est une erreur de ma part. L'extracteur, on dirait le titre d'un film avec Jason Statham, et pourtant, c'est un vrai métier. Son rôle, récupérer les sacs avant que le conteneur ne soit déplacé ou inspecté par les douanes. Pour réussir, certains restent cachés plusieurs jours dans un conteneur vide pour être déposés au cœur de la zone de stockage. Songez-y, Quentin, la prochaine fois que vous voudrez faire un micro-trottoir au data center de la Courneuve, qui vous adresse d'ailleurs tous ses vœux. Fun fact.
Cette histoire est derrière nous.
Non, elle est derrière nous, mais elle est peut-être aussi devant nous, parce que vous avez peut-être rendez-vous avec la justice dans cette affaire, justement. Comme Nicolas Sarkozy, il y a plusieurs affaires qui se suivent.
Une convocation en 2026.
Sachez que Bol Joss, un des barons hollandais de la drogue, actuellement en fuite au Sierra Leone et ayant amassé des dizaines de millions d'euros, a commencé, justement, comme extracteur. Évidemment, la justice néerlandaise tente de mettre la main sur tout son cash, sauf que c'est pas facile, car l'argent a été blanchi. Selon la célèbre technique du schtroumpfage, du schnouffage...
On sait pas ce que c'est, ok.
Ou du Quentin Lui. Plus de détails en tapant fraude à l'URSSAF Quentin Lui sur Google.
A et C.
Vous dites
ah,
tout court.
Oui.
C'est une bonne réponse. Le schnouffage, effectivement. Et oui.
Le schtroumpfage.
Mes petits loustiques. Comme dirait Tata Kam Kam, va falloir se mettre à la page. Vous connaissez pas le schtroumpfage ? En plus, je suis certain que Quentin schtroumpfe sans le savoir. Le schtroumpfage, ou smurfing en anglais, consiste à utiliser plein de gens, surnommés les schtroumpfs, qui vont déposer pour vous, moyennant évidemment une petite commission, des toutes petites sommes en liquide sur leur compte, en dessous des seuils suspects pour l'administration fiscale, ce qui rend donc l'argent de la cocaïne quasi intraçable. J'espère, Quentin, que cette information ne donnera pas envie de schtroumpfer une fois de plus le fisc. Victoire de Manon Mariani.
Eh oui.
Néanmoins.
Je sais pas comment. Bah, comment
bah, si. Moi-même, je ne sais pas comment mathématiquement.
Vous répétez ce que dit la régie.
Bah, alors, Cyril est encore rédacteur en chef.
On me dit, il y a 1-1, il faut bien désigner un gagnant.
Ça, voilà
pourquoi c'est Manon qui l'emporte. Je trouve ça, honteux quand je vous le dis. Cela dit, vous avez relevé une des erreurs.
C'est vrai, c'est vrai.
Et vous méritez votre défaite. À côté, l'héroïne, l'héroïne, c'est de la colle Cléopâtre. Zoom cet après-midi sur le fentanyl, un analgésique narcotique dont les propriétés sont au moins, on l'a dit, 80 fois plus puissantes que celles de la morphine. Le médecin spécialisé en toxicologie, Bruno Megarban, est avec nous pour nous décrypter ce fléau qui frappe essentiellement, on l'a compris, l'Amérique, le Canada aussi. Bruno, je voyais qu'il y avait un nouveau cocktail de drogue associé au fentanyl qui s'appelle la drogue du zombie. Alors, de quoi on parle là ?
Alors, tout à fait. Donc, effectivement, au début des années 2020, est apparu un mélange de fentanyl et de xylazine sur le marché américain. Alors, la xylazine...
Là, on parle toujours du marché de rue.
Tout à fait, du marché du rue. À nouveau, on n'est plus du tout dans la prescription médicale. Nous ne sommes que dans les opioïdes de rue. Alors, la xylazine, en fait, est un produit qui est médicament au départ, antihypertenseur, qui n'a pas été utilisé parce qu'il endormait de trop. Et effectivement, il est utilisé depuis comme sédatif chez les animaux et notamment dans les laboratoires d'expérimentation. Et il s'est trouvé comme adultérant du fentanyl.
Ça veut dire quoi, adultérant ?
Adultérant, c'est-à-dire une substance que l'on rajoute à la drogue. Alors, la question exacte de savoir pourquoi reste encore non résolue. Certains disent que l'addition de fentanyl et de xylazine permet au consommateur d'avoir une sensation avec le fentanyl qui se rapproche de l'héroïne. Car en fait, l'héroïne reste l'opioïde,
le Graal du voilà, camé.
Celui qui donne la sensation de jouissance la meilleure. Je vous raconte ça, mais évidemment, je n'ai pas du tout testé, donc je ne peux pas vous dire. Mais par rapport aux autres opioïdes, c'est le maximum. C'est pour ça d'ailleurs, c'est beaucoup plus cher aussi. Et paraît-il qu'en rajoutant cette substance, on peut atteindre quelque chose qui ressemble à l'héroïne. Alors, malgré tout, évidemment, ceci se traduit par une somnolence des utilisateurs, d'où le mot zombie. C'est-à-dire, en fait, on voit des consommateurs de fentanyl dans la rue marcher comme des zombies ou s'endormir quasiment debout.
Mais ça fait peur, hein.
Alors, il faut savoir quand même que ce phénomène s'est développé donc, à partir de 2020, et même il est maintenant plutôt en baisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et ça, on le savait avant, que l'utilisation, notamment par voie injectée, de xylazine entraîne des lésions cutanées extrêmement graves.
Ah oui, c'est ce que, oui, on a
ce qui fait que les consommateurs, après l'enthousiasme initial, s'en méfient désormais, voire même il existe des bandelettes qui vous permettent, lorsque vous achetez la matière, la drogue à utiliser, de tester si oui ou non il y a la présence de xylazine. Alors d'ailleurs, de façon très intéressante, l'une des causes qui est avancé pour expliquer la baisse du nombre d'overdoses depuis 2023 aux États-Unis au fentanyl, et ce mélange à la xylazine qui probablement dissuade ou réduit la quantité de fentanyl consommée par certains consommateurs.
En 2017, déjà, Donald Trump parlait de la crise du fentanyl comme d'une urgence nationale. Là, il a dit que c'était une arme de destruction massive. Comment on fait, politiquement, pour lutter contre ce fléau-là ?
Alors oui, c'est une catastrophe sociale avec des répercussions économiques dans le pays. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, il faut savoir que c'est responsable du recul de l'espérance de vie dans la population américaine, que ce soit des hommes ou des femmes, indépendamment de la crise du Covid. Baisse de l'espérance de vie qui n'a été observée qu'en Amérique du Nord, pas du tout en Europe. C'est par ailleurs responsable, de troubles économiques, puisqu'il y a toute une gamme de personnes qui sont utilisateurs de drogue, qui malheureusement ne travaillent pas et vivent au crochet des autres dans la société américaine. Donc évidemment, pour un président qui ne pense que business et argent et profit, toute cette part de la population américaine est plutôt un handicap. De toute façon, lutter contre la drogue est quelque chose d'important.
Alors, et justement, comment on fait pour sortir de cette dépendance, voilà, alors, pour que les gens sortent de cette dépendance ?
On peut y arriver ?
Alors, donc, comme d'habitude, il faut deux volets, à mon avis. Il faut le volet répressif, ou en tout cas lutter contre les trafiquants, les filières, mais il faut aussi le volet éducatif, préventif, formation de la population à risque. Et puis aujourd'hui, comme le phénomène existe déjà aux États-Unis, l'un des points qui a beaucoup contribué à réduire, ou en tout cas à limiter les overdoses mortelles aux États-Unis, c'est la mise à disposition dans la communauté de l'antidote. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui,
il existe,
l'antidote que l'on appelle la naloxone est disponible en communauté. Si vous êtes consommateur d'opioïdes, vous pouvez acheter la naloxone, vous le laissez chez vous à la maison, et si quelqu'un vous trouve dans le coma, il vous l'administre par voie injectable, soit intramusculaire, soit intranasale, sans même faire le diagnostic. Donc, un peu comme l'image du défibrillateur que l'on utilise.
C'est le défibrillateur des...
Voilà, sans jamais savoir à quoi ça sert et comment on s'en sert.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. La pièce jointe de Manon Mariani.
Une série inspirée d'une histoire vraie.
On est sur un scandale monumental.
L'oxycontin.
Purdue Pharma a lancé un médicament prétendument sans risque d'accoutumance. Ce qui est mensonger.
Elle s'appelle Dopsyc, elle est sortie en 2021 sur Disney+. La série raconte l'origine de la crise des opioïdes aux États-Unis, une crise dont les effets, on l'a dit, ont directement conduit à l'essor du fentanyl. Elle s'appuie sur des enquêtes journalistiques et des documents juridiques, car même si certaines histoires sont de la fiction, Dopsyc parle d'un fléau de société qui a envahi tout un pays. Au centre du récit, il y a un médicament, l'oxycontin, un antidouleur lancé à la fin des années 1990 par la société pharmaceutique Purdue Pharma. Au départ, il est présenté comme un médicament peu addictif qui soigne les douleurs d'une façon miraculeuse, sauf qu'en réalité, il rend rapidement dépendants les patients qui en prennent. Derrière Purdue, il y a une famille, les Sackler. S'ils ont longtemps été célébrés comme de riches mécènes américains, aujourd'hui, ils sont surtout devenus le symbole d'un scandale sanitaire mondial. La force de Dopsyc, c'est qu'elle raconte cette crise à hauteur humaine. Michael Keaton y incarne justement un médecin de province bien intentionné qui prescrit de l'oxycontin à ses patients sans en mesure les conséquences. La série montre des patients ordinaires, en général des personnes sans grandes ressources financières comme des ouvriers ou des mères de famille, qui sont obligés d'avoir recours à ces médicaments pour aller mieux et subvenir aux besoins de leur famille. Face à eux, les dirigeants de Purdue Pharma, des cadres froids, des cadres stratèges obsédés par les ventes. Dopsyc montre comment cette société a encouragé des prescriptions massives en allant vendre ses produits auprès des médecins de ces petits patelins américains tout en minimisant les risques d'addiction. Résultat, on l'a dit, des millions de personnes sont devenues dépendantes, parfois après seulement une simple blessure. Et puis, quand les prescriptions se sont resserrées, ces patients, déjà dépendants, ont cherché des substituts, d'abord l'héroïne, puis le fentanyl, beaucoup plus puissant, beaucoup plus mortel, souvent consommé sans même le savoir. Dans la réalité, Purdue Pharma a reconnu sa culpabilité, a accepté de payer une amende de plus de 8 milliards de dollars, mais aucun membre de la famille Sackler n'a été condamné pénalement. Ils ont longtemps tenté d'obtenir une immunité judiciaire, mais alors a été refusé par la Cour suprême américaine en 2024. Malheureusement, les dollars peuvent tout acheter, même au détriment de la santé de millions d'innocents.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Pour le réveillon du 31, les gens sans imagination préparent un foie gras, des huîtres, parfois un homard. Les audacieux, eux, osent sortir des sentiers battus comme le globe-trotteur Pierre Courade, le Bibarros, qui cette année a opté pour la queue de taureau. Plutôt, précisons-le, lors de leur escapade à Malaga, c'est son mari qui a pris la queue de taureau, peut-être l'histoire de ne lui pas, pour compenser quelque chose. Lui a pris plus sagement un poulpito. Un poulpito, une anecdote à retrouver parmi les 27 dernières stories qu'il a publiées hier, si jamais vous avez le courage.
28.
Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous et bonne année.
Bonne année, effectivement. Mon cher Pierre, on reprend les bonnes habitudes. Vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur le fentanyl en une minute chrono.
Le fentanyl, en effet, aujourd'hui, tam idéal pour commencer l'année du bon pied. On était avec le médecin spécialisé en toxicologie Bruno Megarban pour comprendre ce qui se cache derrière cet opioïde. Une drogue qui fait des ravages en ce moment en Amérique du Nord et plus particulièrement aux États-Unis. Elle ne vient pourtant pas du Venezuela. La matière première vient de Chine, elle est transformée au Mexique et ce sont les médecins américains eux-mêmes qui l'ont prescrite facilement, en masse, comme antidouleur et probablement aidé par des pots de vin. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte trop tard qu'on pouvait être dépendant aux opioïdes. Par ailleurs, le fentanyl est 100 à 200 fois plus puissant que la morphine. Une microdose peut provoquer un ralentissement de la commande respiratoire puis un blocage du diaphragme, ce qui peut entraîner la mort. 500 000 victimes enregistrées aux États-Unis en une dizaine d'années. Une bombe sanitaire qui a peu de chances d'exploser chez nous en Europe, d'après notre invité, qui estime que notre système de contrôle est plus performant.
Cocorico, ah, c'était votre chute. Mais tu as une très bonne chute.
C'était moins d'une minute. Voilà. Hein.
Vive-nous.
C'était à peu près une
vous avez fait un 45 secondes de rentrée. Non, j'ai jamais fait si court.
Écoutez, si vous voulez, je peux en rajouter.
Non, rajoutez surtout pas.
Nous a dit une info intéressante, c'est que l'espérance de vie aux États-Unis a baissé à cause du fentanyl.
À cause de cette crise du fentanyl.
Vous auriez pu le dire, mais bon.
On aurait pu le dire. Écoutez, j'avais un peu plus de temps. Je le dis maintenant. Voilà, c'est un petit bonus.
Maintenant, on est à 1 minute 20. Maintenant, ça suffit. Merci, Pierre. Marine Leonardi, je crois que vous ne comprenez pas pourquoi on vous a confié ce sujet sur le fentanyl.
Fentanyl, vous avez dit, allez hop, on met la vieille Leonardi sur le coup. La pauvre, ça la fera un peu voyager. Elle n'a pas dû beaucoup s'évader pendant son réveillon. Et je confirme que la dernière fois que ma tête a tourné, c'était à cause d'une mitre pas fraîche. Il arrivait la même chose au mec de Manon, mais moi, c'était vraiment le crustacé. C'est succulent. C'est dingue, hein, quand même. Vous avez dit, la meilleure pour parler de drogue, c'est la Leonardi. Personne ne porte autant de chemisiers à motif de son propre chef sans prendre une mine de temps en temps. Vous avez dit ça, je le sais. Eh bien, détrompez-vous. J'ai rarement pris de la drogue. La dernière fois, c'était en 2017 et j'ai eu des hallucinations. J'ai cru que mon mari avait vidé le lave-vaisselle après m'avoir fait l'amour. Ah non, ah, j'en ai plus jamais repris. La descente a été trop douloureuse, c'était horrible. Hein. En tout cas, je vois que l'année 2026 commence sous les meilleurs auspices. Hein. Alors, la France, elle, est la deuxième plus grande consommatrice européenne de l'Exomil. Et en même temps, hein, quand sur la boucle familiale, tu as des membres de ta famille ou de ta belle-famille, j'entretiens le doute, mais sachez que mes parents n'ont pas WhatsApp, qui défendent Brigitte Bardot, sachant que la dame préférait quand même les phoques aux Arabes, hein, enfin, les immigrés en général, et l'oncle de mon mari de rajouter « Ouais, les deux souffrent du réchauffement climatique, mais les phoques, au moins, ils restent chez eux. » Bon, eh ben, prépare-moi une ligne de quêta, Gérard, l'année va être très très longue. Hein. C'est vrai qu'on n'a jamais vu de phoques dans le Nord-Pas-de-Calais, à part ta femme Véronique. Non, je plaisante, il y a plein de phoques sur la baie de Canche. Rigole pas à cette vanne, mon Pierrot, vu ce que tu fais de tes samedis soirs, la barre d'eau, elle t'aurait dégagé aussi. Hein. Et ta petite tête de teckel t'aurait pas sauvée. Après, je sais de sources sûres que certains dans l'équipe prennent de la drogue, sinon impossible de rire aux blagues de Cyril. Hein, non, mais tire sur mon doigt pendant 130 jours d'affilée, je peux te dire qu'il faut être équipé. Hein. Non, il y en a qui n'ont pas tenu. Hein. D'autres ont arrêté la drogue parce que la minute de Pierre Courade leur a semblé durer 3h30. Ah non, mais c'est très compliqué après d'enchaîner sur un micro-trottoir et de se dire que tout est normal. Hein. Je trash l'équipe parce que voulez-vous que je vous dise, c'est tellement triste la réalité derrière le fentanyl. Alors, c'est surtout répandu aux États-Unis, mais apparemment, ça arrive en France, enfin, même s'il y a peu de chance. Perso, je pense que c'est déjà là quand on voit la ligne éditoriale de certains médias. Je rappelle que la paranoïa est un des effets secondaires. C'est pas possible hein, de voir autant de femmes voilées dans la rue sans prendre quelques substances. Vraiment. Non, la dernière fois, j'ai acheté une cagoule en cachemire, j'ai eu peur de finir aux 20h. J'ai bien mis en évidence ma croix de Jésus, j'avais trop peur de me faire coffrer. Oh là là, la bourgeoise, elle dénonce. Oh, bah, j'ai sniffé un peu de CBD mélangé à des fleurs de Bac juste avant l'émission. Ah, je peux te dire que ça désinhibe. J'ai croisé Adèle Vendrette, je lui ai dit je te préviens, l'année prochaine, tu me mets sur la matinale. Elle m'a répondu tu penses qu'on a déjà pas assez de problèmes comme ça, Marine? Déjà qu'on se tape le père, la carrière hein? Personne n'a envie d'entendre parler de ta chatte à 7h30 du matin, Marine. Bah, c'est ce que mon mari me dit aussi. Il a même rajouté je suis plus excitée par la voix de Duhamel. Bon, à moins que ce soit Adèle qui ait dit ça, je sais plus. Les ravages de la drogue.
Les tristes ravages de la drogue, en effet. Merci beaucoup, Marine Leonardi. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et à la fin de l'année sur la scène de l'Olympia. Ça sera du 10 au 13 décembre 2026. La billetterie sur marineleonardi.com, bien sûr. Merci Bruno Mégarban de nous avoir éclairé sur cette drogue qui fait peur quand même, le fentanyl. Je rappelle discrètement à Manon, si jamais elle décidait de prendre quelques bonnes résolutions pour 2026, que vous êtes médecin spécialisé en toxicologie, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Zoom Zoom Zen.